Une petite évocation sur l'évangile d'aujourd'hui. Nous commençons le chapitre 17 de l'évangile selon Saint Luc. C'est la résurrection du fils de la veuve de Naïm que vous avez entendu. Mon but n'est pas d'analyser aujourd'hui ou de commenter cet évangile-là en particulier. Mais je voudrais le situer dans son contexte. Ce chapitre-là, dans Saint Luc, a un but très, très précis. Tout ce qui est raconté, a pour but de présenter les pouvoirs du Christ comme émanant, comme venant de sa condition divine. C'est l'affirmation vraiment de sa nature divine qui rejaillit sur son humanité et qui lui fait accomplir les miracles que nous voyons dans ce chapitre-là. Il montre à Jean-Baptiste qui s'interroge, es-tu celui qui doit venir? Et il dit, regardez les miracles qui s'accomplissent. Ensuite, il y a le passage de la résurrection de la veuve de Naïm. Ensuite, si je ne me trompe pas, il y a un conflit avec les Hérodiens, puis avec les pharisiens et les publicains, puis avec les pharisiens et les sadducéens. C'est un conflit. Et dans ce conflit, ces conflits s'achèvent toujours par un retrait du Christ qui abandonne la polémique, qui se retire, et qui se retire pour aller avec son Père, pour aller prier. Et en communion avec son Père, il revient vers les foules, ou les foules viennent vers lui, et à ce moment-là, il guérit, et il multiplie des pains à deux reprises. Ces manifestations-là, ces miracles-là, manifestent la nature divine du Christ. Il faut le lire dans ce sens-là. Mais les miracles qu'il opère n'ont pas, j'allais dire, d'importance en soi, pour eux-mêmes, je veux dire. Ces miracles-là ne sont que des signes de l'essentiel de son pouvoir. Et quel est l'essentiel de son pouvoir? Ce n'est pas de guérir, mais c'est de montrer aux hommes, de leur montrer par son amour la rédemption, la promesse et la réalisation effective de la promesse de remettre leurs péchés. C'est l'annonce que si pécheurs qu'ils soient, Dieu est prêt à leur pardonner par amour. Et je crois que c'est ça qui est dans ce chapitre-là à souligner fondamentalement souligner de plusieurs traits, que ce que fait le Christ, c'est par amour. D'ailleurs, au moins à trois reprises, si je ne me trompe pas, parce que je connais hélas pas l'évangile par cœur, Je crois qu'au moment de la résurrection du fils de la veuve que nous avons lu, dont nous avons lu le récit tout à l'heure, et je crois que dans le cas des deux multiplications des pains racontées par Saint-Luc, il revient à chaque fois, donc trois fois, au moins trois fois, l'expression que Jésus est remué jusqu'aux entrailles. Ce qui montre vraiment cette propension, cette philanthropie, cet allant perpétuel vers les hommes, d'amour pour les hommes, qui n'est pas d'un amour, on y revient souvent, que d'ordre affectif, bien sûr, mais non seulement il a pitié, mais il descend pour recréer, pour refaire, pour sauver, pour attirer à lui les hommes. S'il en est ainsi, d'abord, il doit bien souffrir parce qu'on ne lui rend pas toujours la pareille, mais sa philanthropie, sa miséricorde amène, doit amener, ne peut qu'amener, si nous n'avons pas le cœur trop dur, un retour d'amour aussi, un retour de... ça ne sert à rien, je veux dire, on ne peut pas lire l'Évangile ou chercher à connaître le Christ ne sert strictement à rien si c'est simplement d'avoir une connaissance de qui il est, comment il se manifeste, qu'est-ce qu'il dit. Ceci n'a d'intérêt que dans la mesure où on perçoit son amour et on veut lui rendre son amour, ou on veut le suivre. Et c'est ça le nœud de l'Évangile. Comment suivre le Christ? Voulons-nous ou non suivre le Christ? Les preuves de son amour, nous les avons en permanence. Nous les avons eues et nous les avons encore si nous savons voir. Mais il ne s'agit pas simplement de bénéficier, de jouir de son amour. Il faut aussi répondre à cet amour, sinon on ne le comprend pas. L'amour, par définition, est une attitude qui se partage. Un amour unilatéral est un amour insatisfait. Et on ne peut pas recevoir simplement l'amour de Dieu à travers le Christ et ne pas lui répondre. Et le but de l'Évangile, c'est de nous inviter à lui répondre. Et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, a pour but de nous émouvoir aussi jusqu'aux entrailles. Non pas en versant des larmes de crocodile, en imaginant les souffrances qui étaient les siennes sur la croix ou devant les trahisons, tous les passages que vous connaissez. Mais c'est vraiment de compatir, c'est vraiment de vouloir s'unir, de vouloir être un avec lui. L'Évangile n'a que ce but-là. Et les méthodes, après, pour y parvenir, les méthodes, l'Esprit Saint, à travers l'Église, nous les indique. C'est les sacrements, la vision perpétuelle, quotidienne ou hebdomadaire de la gloire de Dieu qui se répand dans ce monde à travers, et que nous voyons à travers des symboles, à travers la liturgie, mais qui intérieurement est une théophanie et qui intérieurement nous illumine. Malgré les couacs de notre chant, nos maux de tête, nos maux de jambes, le petit déjeuner qu'on sent qui va arriver, et dont on sent déjà la cuisson des croissants, ou de la dinde de Noël, enfin, pour faire. Elle est un petit peu loin là, pour l'instant. Mais malgré tout ça, malgré. En assumant les conséquences de notre nature humaine, physique et psychique, en assumant cela, on peut aussi, et en même temps, voir l'invisible. voir le royaume des cieux, voir la présence de Dieu, voir la, sentir l'amour de Dieu pour nous. Et si on sent cet amour pour nous, ça ne peut que susciter en nous cette réponse. Et surtout, n'ayons pas un cœur dur en passant à côté de cette réponse en disant « Plus tard, on aura le temps, on verra ça une autre fois. » Le royaume des cieux, c'est tout de suite. L'éternité est à notre disposition. Mais l'éternité, c'est quoi ? C'est l'espace qui existe entre le passé et l'avenir. Et l'espace, c'est quoi ? C'est une abstraction, presque. On ne peut pas le calculer. C'est même pas une fraction de seconde, c'est déjà passé. Et pourtant, ce moment présent, c'est ça qui nous ouvre sur l'éternité. Et c'est comme ça que par le moment présent, on est rendu présent, et c'est là où nous aident les saints mystères, c'est là où nous aident les sacrements. Ça nous permet de participer a posteriori à des événements historiquement passés, ou à participer a priori à des événements encore à venir. Et quand on est à la liturgie précisément, mais je peux en dire, on pourrait dire la même chose pour la prière, pour la vraie prière, on est au-delà du temps et au-delà de l'espace, rendu présent à tout ce qui fait notre union, tout ce qui fait notre union à Dieu. Nous devenons éternels avec lui. Et remettre ça à dans 10 minutes, à demain, à ma vieillesse, d'abord, je ne suis pas sûr d'y arriver. Déjà, un petit passif là-dessus, mais enfin, bon. C'est passé à côté de l'éternité, c'est à côté de l'expérience. Et si nous sommes sur Terre, ce n'est pas pour jouir uniquement du pseudo-moment présent historique, mais c'est pour nous initier à l'autre vie. Et c'est pour ça que le Christ est remué jusqu'aux entrailles, en voyant notre faim et notre soif, qui ne sont pas simplement la faim ou la soif de nourriture terrestre, mais l'homme a faim d'autre chose. C'est pour ça qu'il est tellement angoissé, qu'il recherche quelque chose. Alors on le recherche mal parce qu'on essaie de le faire par une prolongation ou une jouissance plus grande de notre vie qu'on appelle la vie d'ici-bas, faute de meilleure expression. Mais c'est une vie illusoire qu'il faut bien vivre, qu'il faut bien assumer. Mais en soi, c'est pas le but. Et il faut s'abstraire de cette vie-là pour participer, pour entrer dans l'autre vie, la vie éternelle.